Il est 8h19 à Paris. Notre invitée ce matin est océanographe et biologiste, conseillère scientifique du CNRS, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. C'est une exploratrice des fonds marins et une voix forte pour faire entrer les océans dans les sommets internationaux et les mesures pour l'environnement. Françoise Gayle, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RFI en studio pour passer en revue quelques-uns des grands enjeux qui traversent actuellement les discussions politiques et scientifiques sur les océans. Avant de commenter l'actualité, j'aimerais m'adresser à la scientifique que vous êtes et prendre un peu de recul pour bien comprendre. Vous dites que l'océan est le système le plus important aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique. Expliquez-nous pourquoi.
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que si on considère la chaleur que nous émettons par nos activités humaines, c'est l'océan qui va conserver et prendre cette chaleur. C'est un puits de chaleur. Plus de 90% de cette chaleur est accumulée dans les océans. Et s'il n'y avait pas l'océan, mais on ne pourrait pas vivre à la surface de la planète. Donc c'est vraiment ça, une première caractéristique qui fait de l'océan, pour l'environnement et pour la Terre, quelque chose de déterminant. La deuxième chose, c'est que l'oxygène que nous avons a été produit au cours de l'évolution grâce aux écosystèmes océans. Et donc c'est aussi pour nous une façon de vivre à la surface de la planète qui rend l'océan comme déterminant pour l'équilibre des choses.
Et puis c'est un capteur de carbone, de gaz carbonique.
Tout à fait, plus d'un tiers de ce gaz carbonique est accumulé également par l'océan. Donc puits de chaleur, puits de carbone, voilà deux choses qui déterminent aussi l'importance de l'océan.
Un système essentiel, mais un système menacé. L'océan est déjà touché par le changement climatique. Évidemment, quels sont les dangers concrets qu'il court aujourd'hui, et avec eux les dangers concrets que court l'humanité?
Le premier des dangers est d'abord l'accumulation de chaleur va entraîner une dilatation du volume de l'océan et donc entraîner une élévation du niveau des mers avec la fonte des glaciers, etc. Et donc pour toutes les populations côtières, c'est un des grands enjeux pour l'avenir de s'occuper de cet accroissement du niveau des mers. La deuxième chose, c'est que par rapport à la population de poissons, par exemple, pour notre alimentation, qui est extrêmement importante, mais ça peut aussi être les huîtres, les moules, tout ce qui est produit marin, il va y avoir des conséquences. On observe aujourd'hui des migrations, par exemple, de poissons qui étaient dans les zones tropicales et qui vont aller vers le nord. Et donc, ça veut dire aussi des conséquences économiques non négligeables pour les sociétés humaines.
Il y a dans l'actualité cette semaine une conséquence du réchauffement des océans. C'est un nouvel épisode du blanchissement massif des coraux. C'est le deuxième en moins de 10 ans. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant et quelles sont les conséquences de ce blanchissement?
C'est inquiétant parce que les coraux sont un peu les sentinelles de ce qui va se passer par rapport à la biodiversité marine. Donc c'est les premiers impactés par cette élévation de la température. Qu'est-ce qui se passe quand les coraux deviennent le blanchissement? C'est qu'ils conservent dans leur tissu un certain nombre d'algues qui sont expulsées par le stress thermique qu'ils reçoivent. Et ces coraux, en général, jouent non seulement un rôle pour le tourisme, ce qui est extrêmement important, mais aussi par rapport aux tempêtes, par rapport aux cyclones, joue un rôle d'amortissement des événements extrêmes. Et donc, en ce sens-là, c'est extrêmement grave pour les populations humaines, là encore une fois.
Ils sont protecteurs de ces populations. C'est aussi cette semaine que la Grèce accueillait un sommet sur les océans. 11,5 milliards d'euros promis par les pays participants. Vous vous êtes battus pour faire apparaître la question des océans dans les grandes rencontres, comme les COP, par exemple. Une nouvelle conférence de l'ONU sur le sujet est prévu l'an prochain en France. Voyez-vous un impact réel de cette multiplication des sommets? Arrive-t-on aujourd'hui à voir les promesses se concrétiser?
Oui, moi je suis extrêmement optimiste parce qu'en fait, par exemple, au moment de l'accord de Paris sur le climat, il y avait pratiquement rien qui était discuté au sujet de l'océan. Depuis 10 ans, pratiquement 10 ans, on voit que l'océan commence à être traité à sa juste valeur. Et dans les années qui viennent, on va avoir une accumulation, disons, d'informations et aussi de possibilités d'action qui vont être présentées, en tout cas, à Nice, à l'UNOC, ce qu'on appelle la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Et en ce sens-là, un certain nombre de propositions visent aussi à traiter de la gouvernance de l'océan. Les rapports sciences politiques, par exemple. Nous sommes à une cinquantaine à proposer en tant que scientifiques la création d'un IPOS, qui veut dire International Panel for Ocean Sustainability.
Le plateforme. Panel international pour un océan durable.
Voilà. Et nous pensons que c'est le moment aussi de pouvoir s'appuyer sur ce que nous savons, voir qu'est-ce qu'il nous faudrait savoir de plus pour pouvoir agir non seulement au niveau local, comme je l'ai dit, sur les côtes, mais aussi au niveau global par rapport au transport maritime, par rapport même au capital que représente l'océan. Et cet océan, c'est un océan des possibles. Et je pense que oui, c'est important ce qui se passera en 2025.
Vous proposez notamment, vous l'évoquiez il y a un instant, d'inverser le sens des interactions entre les scientifiques et les politiques. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça veut dire, par exemple, que si on regarde le GIEC, qui pour nous, scientifiques, du point de vue académique, est un bijou, un joyau de la connaissance, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, on a fait un résumé pour les décideurs. Mais si on regarde ce résumé pour les décideurs, en fait, il faut encore vraiment traduire un certain nombre de choses que fait la plateforme Océan Climat, par exemple.
C'est compliqué à comprendre.
Oui, c'est compliqué.
Pour un décideur politique.
Tout à fait. Et la différence, c'est la temporalité. Le scientifique a le temps. Et il lui faut du temps d'ailleurs pour rentrer justement dans la compréhension du monde. Mais le politique, lui, c'est l'action. Et en général, il n'a absolument pas le temps. Donc il y a deux temporalités qui s'affrontent. Et ce que nous souhaitons faire, c'est faciliter la prise de décision s'appuyant sur cette connaissance scientifique.
C'est-à-dire des politiques qui vous demanderaient en fait des informations, des rapports, des...
Voilà, donc on serait pour avoir une plateforme qui serait demand-driven, on dit en anglais.
Cette nouvelle plateforme, l'IPOS, veut aussi se décentrer d'une posture occidentale, mieux intégrer notamment les populations les plus liées à l'océan. Vous avez travaillé déjà avec les États insulaires qui se font de plus en plus entendre, les populations et leur savoir. Sur cette question des savoirs, des représentations qu'on peut avoir de l'océan, que peuvent nous apporter d'autres points de vue ?
D'abord, ce concept d'IPOS, on l'a eu à deux, moi-même et une femme d'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que c'était déjà une convergence entre deux mondes, d'une certaine manière. Et la deuxième chose, c'est que je crois que la connaissance, elle n'est pas seulement que scientifique, académique. Il peut y avoir une connaissance de savoir-faire et de savoir-être. Et que, à cet égard, moi, j'ai été très fascinée par le fait que dans l'océan Pacifique, on avait une diversité de connaissances et de rapports à l'océan qui faisait que les petits états insulaires, par exemple, étaient considérés comme des grands états océaniques et que le rapport à l'océan était complètement différent. Donc il y a une question de culture et ce que nous souhaitons aussi réaliser avec cette IPOS, c'est le fait que tout le monde ait accès à la connaissance, qu'on puisse partager cette connaissance et qu'elle puisse être co-construite. Co-construite, ça veut dire aussi ne pas partir de cultures particulières, mais en tout cas d'essayer de les unir et pour en faire quelque chose de nouveau et d'efficace.
Avec un développement aussi de la recherche scientifique dans ces pays, on imagine.
Tout à fait. C'est là, dans ces pays, en particulier les petits états insulaires, pour Aurora Ocean, dont on a parlé, il y a des propositions de centres scientifiques à créer, et nous souhaitons vraiment vivement y contribuer.
Merci Françoise Gayle, à l'origine donc de cette nouvelle plateforme LIPOS en cours de création, océanographe, biologiste, conseillère scientifique du CNRS ou encore vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. Merci infiniment d'être venue sur RFI ce matin. Merci. Très bonne journée.